Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de la Grande Tchatch, l'émission politique du mensuel Le Ravi sur les ondes de la Radio Grenouille. Rafi Hamal, qui co-anime ce rendez-vous, est l'un des 1500 Marseillais en attente d'un relogement suite à l'évacuation de son immeuble après un arrêté de péril. Il s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous, on l'encourage. Je vous présente donc sans tarder notre invité. Quand l'heure est grave, quand la France frôle l'insurrection, il faut garder son calme et maintenir le cap. Et quel meilleur exemple que Manu, notre président, le père de la nation. Après un nouveau week-end d'émeute, avant de prendre la parole à la télévision, le chef de l'État a réuni 37 convives autour d'une table à l'Élysée. Les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil économique et social, 13 ministres, 12 dirigeants syndicaux et patronaux, ainsi que 9 représentants des territoires. Pas un de plus. Et vous y étiez, Marc Villemot, en tant que président de l'Association des maires, villes et banlieues de France. Marc Villemot s'interroge des auditeurs qui espéraient plutôt une rediffusion d'un mix électro. Pour les plus ignares, rappelons que vous êtes, depuis bientôt 11 ans, le maire de la Seyne-sur-Mer, la deuxième ville du Var. Et vous n'avez pas craint de franchir les 66 km parsemés de gilets jaunes séparant votre hôtel de ville du studio marseillais de Grenouille. Pour les plus politiques, soulignons que la Seyne-sur-Mer est, juste après Avignon, la plus grande ville de PACA, administrée par un maire de gauche. Est-ce parce que votre moustache façon Astérix vous donne l'allure d'un jovial gaulois que le président des riches, soucieux de renouer avec la France profonde, vous a consulté ? Peut-être allez-vous dévoiler la recette de votre potion magique, celle d'une majorité de la gauche unie, fédérant du Parti radical jusqu'au NPA, en passant par le PS, les communistes, les Verts, le MRC, le Parti occitan, et j'en oublie probablement. Avant de tomber dans la marmite politique, fils d'une infirmière et d'un technicien navigant, vous avez d'abord, dès vos 17 ans, goûté au militantisme associatif dans la sphère de l'éducation populaire. Après une prépa, maths sup bio, lycée tiers à Marseille, puis l'école normale à Aix, vous devenez prof et demandez à être affecté à la Seyne. Ce sera au collège Henri Vallon à Berthe, l'un des quartiers populaires de la ville. Vous y coordonnez à la fin des années 80 l'une des premières zones d'éducation prioritaire. Vous siégez en mairie, d'abord dans les rangs de l'opposition, puis en 95, lorsque la Seyne passe à gauche, comme adjoint chargé de la politique de la ville. Après un retour dans l'opposition, vous êtes élu maire en 2008. D'abord adhérent au PSU, l'héritier des aspirations autogestionnaires post-68, vous rejoignez le PS en 85. Toujours tendance frondeur. Même si, dans le Var, votre sens de la synthèse en agace certains, comme votre entente cordiale avec l'omnipotent et droitier Hubert Falco, dont vous êtes l'un des vice-présidents à l'agglo toulonnaise. Falco, qui vous appellerait parfois Marcounet. Mais vous aimez toujours les coups d'éclat. En 2011, vous n'hésitez pas à parcourir en 17 jours 950 km à vélo de la Seyne à Paris pour tenter de sauver la maternité de la ville. Électrique, le vélo, ça, c'est pour votre sens de la synthèse. Vous campez aussi plusieurs nuits aux portes de la maternité qui fermera malgré tout. En septembre dernier, après une nouvelle fusillade tuant 2 victimes dans un adolescent, vous décrétez un couvre-feu pour les mineurs de la Seyne afin de réclamer plus de moyens pour prévenir la délinquance. Last but not least, à 61 ans, vous venez, dans le sillage d'Emmanuel Morel et de Marie-Noël Lindemann, de claquer la porte du PS en rejoignant le mouvement Après. Ce qui veut dire Après A, alternative pour un programme républicain, écologiste et socialiste. N'oubliez pas d'en offrir une copie à Manu lors de votre prochain rendez-vous à l'Élysée. Voilà, c'était ça, c'était pour le portrait. Une réaction peut-être comme ça, une erreur, une rectification ?
Non, c'est bien vu, vous avez de bons renseignements, c'est tout à fait exact.
Bien, alors on démarre cette émission, on va peut-être partir du national et puis aller plus vers le local. Et peut-être une actualité à laquelle on ne pensait pas quand on a programmé cette émission, nous revoilà dans une séquence d'attentats, Strasbourg, 3 morts, 13 blessés. Un fichier S, 29 ans, niveau urgence attentat, du plan Vigipirate. On est toujours attrapé par ce dossier, la sécurité.
Oui, on est rattrapé par le dossier de la sécurité. On ne peut pas mettre tous les événements dans le même sac. On a des phénomènes de délinquance qui sont croissants, en particulier oui, dans nos quartiers populaires, autour du trafic des stupéfiants. Et puis on a cette réalité, alors là je ne sais pas ce qu'il en est exactement, mais si ça devait être un acte de terrorisme, ça s'inscrirait malheureusement dans cette évolution tragique qu'on connaît depuis quelques années. Et qui pose fondamentalement la question des fondamentaux justement de la République, cette République laïque, où on doit sans arrêt se questionner. Et la meilleure voie du questionnement, me semble-t-il, c'est celle de l'éducation populaire et de l'éveil des consciences. C'est un grand chantier, ce sont des mots, c'est facile à dire, mais on observe tout de même que depuis 30-40 années, tout le travail qui pouvait être conduit bien sûr à l'école, mais également dans tous les moments et dans tous les lieux où peut se vivre justement le vivre ensemble, la réflexion, le faire ensemble, le partage, et qui contribue à aiguiser les réflexions, tout ce travail-là est fragilisé par les politiques publiques d'État en particulier, qui ont enlevé des moyens. Tout ce travail qui est conduit essentiellement par le monde associatif, culturel, sportif, socio-éducatif. Peut-être, si on rajoute à cet ingrédient-là les difficultés d'ordre socio-économique, on se trouve dans ce genre de configuration, hélas.
Alors on va revenir sur ces questions de fond, mais l'actualité sociale, et puis je le disais dans le portrait, vous étiez à l'Élysée avant l'intervention du président. Parmi ces 37 personnalités des corps constitués et du territoire, donc représentants du territoire, avant son expression télévisuelle, ça s'est passé comment? Il était à l'écoute, fébrile?
J'ai senti un homme très préoccupé. Pour l'avoir rencontré à quelques reprises auparavant, en effet, ça se lisait sur son visage, mais j'ai même, dans le même temps, aussi senti un homme qui avait véritablement besoin d'être à l'écoute de tous ces représentants de ce qu'on appelle ces corps intermédiaires, c'est-à-dire en fait une réalité de la nation, que ce soit les représentants du patronat, que ce soit les représentants des salariés, que ce soit les représentants du peuple via les élus. Il avait véritablement besoin d'écouter nos analyses, d'écouter nos propositions, nos suggestions. Il a d'ailleurs été très attentif, ça a duré plus que prévu, ça devait durer 3 heures, ça a très très largement dépassé. Il nous a fait une petite conclusion. Moi ce que j'en retiens essentiellement, c'est que après 18 mois, ou pour ce qui nous concerne, les élus, et en particulier les élus locaux, les élus de la proximité, nous avons été singulièrement méprisés par cette nouvelle forme du pouvoir de ce nouveau monde très vertical. J'ai vraiment l'impression qu'il a quand même senti là qu'il fallait en finir avec ce mode de relation à ceux qui sont élus par la population et qui peuvent, dans un pays qui fonctionne avec une décentralisation, qui peuvent contribuer à la mise en œuvre de ce qui est utile au peuple.
C'est pas un peu démagogue? Alors il y a l'annonce d'un Tour de France des maires en disant qu'il allait lui-même aller à la rencontre des maires dans tous les territoires. Il est grand le territoire, il y a beaucoup de maires en France.
Oui, je crois qu'il a précisé qu'il le ferait par région. Donc j'imagine que ça va être des rassemblements, donc une douzaine de rassemblements dans le pays. Ce qu'il a indiqué également, et ça c'était le soir dans son intervention, c'est qu'il allait s'appuyer sur nous pour organiser cette fameuse concertation citoyenne qui devrait, a-t-il dit, durer 3 mois à partir du début de 2019, et qu'il allait s'appuyer donc sur le plus petit échelon de l'organisation administrative et politique du pays que représentent les communes. Alors on pourrait en sourire en se disant voilà, un gouvernement, succédant à d'autres d'ailleurs, qui n'ont eu de cesse de minorer le rôle des communes, de leur réduire les compétences, de les inciter, voire les forcer à la coopération intercommunale, et qui aujourd'hui se rappellent que comment dire, les positions avancées de la République, celles qui sont au plus près des citoyens, ce sont les communes avec leurs élus locaux.
Alors, par toujours, hein, pour prendre l'exemple marseillais, il y a en ce moment pas mal de tensions suite à un drame, hein, celui de la rue d'Aubagne, qui a révélé au grand jour la problématique du logement indigne. Et là, on a un maire qui a l'air un peu déstabilisé, Jean-Claude Gaudin, et qui a repoussé la réunion d'un conseil municipal, le premier depuis ce drame, et qui semble avoir un peu peur de ses administrés. Enfin, le maire, en fait, c'est pas non plus toujours un personnage forcément à l'écoute, dans la proximité. Vous allez avoir un discours un petit peu corporatiste, on va dire.
Non, je pense que c'est évidemment, certainement, beaucoup plus difficile d'être maire d'une ville comme Marseille, s'agissant en tout cas de la relation aux concitoyens, que maire d'un village, c'est entendu. Mais on peut, si on en a le tempérament, si on le souhaite, si on en voit la nécessité, trouver les formes de la relation à nos concitoyens, même dans une commune de plusieurs centaines de milliers d'habitants. En tout état de cause, moi qui suis maire d'une ville moyenne, il y a 66 000 habitants dans ma commune, les gens savent me trouver, ils savent où je suis entre midi et deux, je déjeune toujours dans le centre-ville à peu près, je me déplace un peu de partout dans la commune. D'ailleurs, on est réceptacle de beaucoup de récriminations, y compris sur des sujets qui relèvent pas de la compétence communale. Mais peu importe, il est important que cette relation existe. Il arrive parfois aussi qu'on reçoive des compliments, et ça encourage à continuer.
On va revenir sur la fonction, mais restons un petit moment sur les annonces d'Emmanuel Macron après une période quand même très exceptionnelle, un état quasi insurrectionnel avec ce phénomène des gilets jaunes. Ces mesures, ces annonces, est-ce qu'elles n'arrivent pas un peu trop tard? Est-ce que c'est assez? Votre réaction, votre première réaction?
Bon, je crois que c'est singulièrement insuffisant. Moi, pour ce qui me concerne, la lecture que j'en fais, c'est que c'est presque mensonger. C'est presque mensonger si on les regarde les unes après les autres, même si, en toute objectivité, oui, il va y avoir quelques...
Mensonger, le terme est fort, prenons SMIC, oui. Alors 100 euros de plus pour le SMIC.
Écoutez, une partie de ces 100 euros, était déjà de toute façon prévue, puisque le SMIC doit augmenter entre 2018 et 2019 de 1,8% pour suivre l'inflation. On n'a pas encore compris d'ailleurs si les 100 euros vont être en plus de ces 20 euros que représentait déjà cette augmentation, ou si même on aura intégré dedans la diminution des cotisations sociales. C'est en ce sens que je dis qu'il y a un effet tape à l'œil quelque part. On sait également que ça va pas véritablement être une augmentation du SMIC. Ça va être une augmentation de la prime d'activité. C'est singulièrement différent. La prime d'activité, c'est une sorte de prestation sociale qui est attribuée sous condition de ressources, et pas de ressources liées au salaire de la personne qui la perçoit, mais liées aux ressources de l'ensemble du foyer. Ça veut dire qu'une personne qui serait au SMIC ou en dessous du SMIC, mais qui aurait un conjoint qui, lui, aurait un salaire beaucoup plus important, ne pourra pas bénéficier de cette augmentation de la prime d'activité. De surcroît, cette prime d'activité, n'étant pas un salaire, ne pourra pas être... prise en compte si par malheur la personne se retrouve au chômage dans le calcul du montant de l'indemnité chômage, et pas plus non plus en fin d'activité dans le calcul de la pension de retraite. C'est en ce sens que les annonces sont c'est pas rien.
10 millions, mais... on chiffre à peu près à 10 millions la somme.
Oui, c'est finalement pas grand-chose à l'échelle de l'État. J'observe qu'on a refusé de prendre l'argent là où on pouvait le prendre, et je pense notamment en réinstallant ce qui aurait pu être une piste, l'impôt de solidarité sur la fortune, ou en revenant sur la décision de rajouter 20 millions d'euros cette année pour accompagner les entreprises, et notamment les grandes entreprises qui sont déjà bénéficiaires du crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises et l'emploi, qui d'ailleurs pas véritablement assorti d'effet, hein, ça relève du volontariat, du bon vouloir du patronat dans cette affaire-là. Il y avait quelques pistes significatives qui auraient pu être utilisées. Là, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que l'augmentation de la prime d'activité, Le retour sur l'augmentation de la CSG pour les retraités qui vont gagner moins, qui gagnent de mémoire moins de 2000 euros par mois, ça va être des moyens en moins pour l'équilibre du budget de la sécurité sociale. Je rappelle en plus qu'il a déjà été voté. Il va falloir donc revoter et transformer le budget de la sécurité sociale. Et en tout état de cause, ça va être payé par le contribuable dans tous les cas de figure. En ce sens, oui, il fallait sûrement répondre. Et je vois, vous avez probablement raison d'estimer que ça aurait pu être fait plus tôt. Mais globalement, on s'inscrit dans une logique d'une politique clairement libérale. C'est, à mon sens, pas ce que ni les plus humbles de nos concitoyens, ni les classes de moyennes attendent aujourd'hui. On a besoin d'une inflexion complète du projet politique du pays et de l'Europe. On a le droit de considérer aujourd'hui, me semble-t-il, la preuve, c'est que le gouvernement semble indiquer que la fameuse règle, dite règle d'or, selon laquelle il n'est pas possible à un État de l'Europe de voir son déficit excéder les 3% du produit intérieur brut, probablement que cette règle-là ne va pas être respectée. Donc, tant qu'à faire, si on ne doit pas la respecter, allons au bout et mettons en œuvre une véritable politique sociale.
Alors en même temps, le ministre de l'économie a annoncé un petit peu la couleur en disant qu'il va falloir faire des économies budgétaires pour compenser ces dépenses. Donc, et les entreprises sont assez peu, voire même pas du tout, mises à contribution dans l'effort qu'on vient de décrire.
En effet, parce qu'il va bien falloir trouver les moyens de ces tout petits cadeaux. Et donc il est fort probable que l'on va avancer vers une perte de services publics dans sa globalité, du service public de l'État, du service public de la fonction publique hospitalière et du service public des collectivités locales et territoriales, alors même que le service public est, selon moi, et selon de plus en plus de gens, me semble-t-il, un des moyens de la régulation des inégalités sociales et économiques, territoriales, culturelles. Et voilà qu'on va en plus le fragiliser pour finalement une misère qui va être accordée aux plus malheureux de nos concitoyens.
Alors j'espère que vous n'êtes pas jaloux, mais Nicolas Sarkozy a été consulté aussi par Emmanuel Macron avant d'intervenir sur France Inter. Et puis on retrouve une mesure qui était chère à l'ancien président, c'est les heures supplémentaires défiscalisées qui font partie du pack de mesures. Vous en pensez quoi de ces heures supplémentaires défiscalisées?
Écoutez, si on regarde l'impact que ça a eu lorsque, en effet, le conseiller de M. Macron dont vous venez de faire état, Sarkozy, si on regarde ce qui s'est passé à ce moment-là, effectivement, ça a apporté un peu d'air frais en termes de salaire net pour ceux qui en ont bénéficié. Mais on est dans une démarche proportionnelle, puisque ce sont des cotisations fiscales qui sont retirées, et ça a essentiellement profité aux grands salaires, forcément, beaucoup plus qu'aux petits salaires. Et dans le même temps, ça a quand même eu comme impact, et ça pourrait avoir un impact de même nature, forcément, en perte d'emploi, forcément. Si on fait réaliser le travail par des gens qui travaillent en heures sup, on n'est pas dans une démarche de création d'emplois. Tant mieux pour ceux qui vont en bénéficier, mais il me semble qu'il y a simplement autre chose à faire, c'est-à-dire globalement augmenter l'ensemble des salaires, en commençant par le SMIC, et puis également augmenter le point d'indice des fonctionnaires, parce que eux aussi se retrouvent dans des situations aujourd'hui d'énormes difficultés par rapport à leur pouvoir d'achat.
Alors vous avez écrit une lettre à la députée marcheuse en marche du Var, une des députées, Émilie Guérel, en la questionnant justement sur le sens de ces mesures. Enfin, vous avez l'air un petit peu circonspect sur la façon dont elles peuvent s'appliquer aussi. Hein. On sent un flottement aussi dans le gouvernement sur comment faire maintenant.
Oui, il semblerait que certains ministres ont découvert les mesures lorsqu'elles ont été annoncées par le président de la République. Mais je reconnais que s'il les a imaginées entre 16 heures, le moment où nous l'avons quitté, pour après lui avoir formulé quelques propositions, quelques pistes, et le moment où il les a enregistrées, puisque c'était donc probablement quelques heures après, il n'a sûrement pas eu le temps d'en faire part à tous les membres de son gouvernement. Bon. Ceci étant, pourquoi est-ce que j'interpelle la députée de notre circonscription de l'Ouest du Var ? Eh bien, parce que je suis moi-même interpellé par les gens. On a objectivement un déficit, comment dire, de formation, de connaissance des différentes institutions, et le maire est questionné sur tout, y compris sur ceux qui ne relèvent pas de sa compétence. Moi, je crois qu'il est important que le législateur, que la majorité présidentielle, et en l'occurrence la députée Émilie Guérel, celle de notre circonscription, est une députée de La République En Marche, je crois qu'il est important que l'État puisse expliquer très clairement et répondre aux questions que se posent nos concitoyens sur les modalités concrètes de ces annonces. Voilà le sens du courrier que je lui ai adressé, pour lui indiquer également que je jouerai le jeu de ce qui a été annoncé par le président de la République, c'est-à-dire créer les conditions du débat, de la discussion, du recueil d'idées, du recueil de réflexions pour les concitoyens. Et puisqu'il demande au maire de s'en occuper, je jouerai parfaitement le jeu, mais je réclamerai que l'État soit représenté dans ces échanges-là, d'une part par son exécutif. Je pense que le bon niveau, c'est le préfet du département, mais également par son législateur, et le bon niveau, c'est le député de la circonscription.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire à ceux qui portent des gilets jaunes dans votre ville et votre département, rentrez chez vous, maintenant l'heure est à la discussion?
Non, d'abord ça ne servirait à rien, je crois que ça a mis en évidence une vraie difficulté à reconnaître ce que sont les élus, ce que sont les syndicats, ce que sont tous ces fameux corps intermédiaires. J'ai pas mal discuté avec des gens qui faisaient des barrages filtrants chez moi et ailleurs. En effet, on a un problème de prise de conscience du fonctionnement démocratique tel qu'il existe aujourd'hui, et peu importe donc la parole d'un élu, qu'il soutienne, qu'il encourage ou qu'il invite à cesser le mouvement. En revanche, je pense qu'il est important de se pencher sur, et c'est ce que, à mon sens, je suggérerais aux Gilets jaunes, se pencher sur les modalités de leur participation à ce débat qui va être proposé par le président de la République et le gouvernement. Sûrement que ça va supposer de leur part un peu d'organisation. Alors je sais qu'à certains endroits, déjà, il y a eu des désignations de porte-parole, etc. On a là un bel exercice pratique de démocratie réelle, concrète. Je pense que ça va être intéressant à suivre. Ça va être sûrement intéressant que, au-delà des personnes qui portent le gilet jaune, le maximum de nos concitoyens puissent y prendre part.
Alors il y a une armada de sociologues, politologues et autres spécialistes qui sont consultés sur ce phénomène des gilets jaunes et qui rament. Hein. Votre regard sur ce mouvement inattendu et assez spécifique. Au départ, à gauche, beaucoup de réticence, hein, de crainte aussi de mouvement populiste, voire lié à l'extrême droite, pour dire les choses clairement.
Oui,
et puis finalement
c'est vrai que je l'ai entendu. Pour ce qui me concerne, c'est pas tant ça qui me préoccupait, c'était plutôt... Parce que, bon, j'ai quand même eu une histoire de militant syndical et je continue d'ailleurs à régler ma cotisation, même si je suis retraité aujourd'hui. Mon inquiétude, elle était plutôt sur la capacité du mouvement à s'organiser de telle sorte que ses revendications puissent être portées, tant qu'à faire être entendues, et que tout ça se déroule dans des conditions de sécurité. Très honnêtement, le maire que je suis était plus inquiet des modalités concrètes des barrages, des relations des gilets jaunes aux travailleurs qui revendiquaient de pouvoir passer pour aller défendre leur beefsteak, gagner leur beefsteak, pardon. Les inquiétudes qu'on pouvait avoir par rapport à un effet d'entraînement, notamment pour nous les maires qui avons sur nos territoires des quartiers prioritaires urbains fragiles et où, on le sait, malheureusement, on a connu déjà des situations de type émeute en 2005, en 97, et on sait qu'il y a une tranche de notre population, notamment notre population de jeunes adultes, de jeunes et même parfois de très jeunes, qui peut, dans ce genre de situation, se mettre dans des situations et mettre l'ensemble du territoire dans une situation fort préoccupante. C'était là mon inquiétude.
Alors, à la Seine, pas de casse, mais ailleurs, oui, Paris, et puis dans les grandes villes, Marseille et autres, des mots d'expression qui ont pu aller jusqu'à une forme de violence.
Mais nous l'avons connu à la Seine aussi.
Aussi.
Oui, nous l'avons connu une journée, une nuit en particulier. C'est effrayant. La crainte qu'on pouvait avoir à ce moment-là, bon, au-delà évidemment des prédations et des risques d'accidents hein, qui pouvaient survenir, la crainte qu'on pouvait avoir aussi, c'était que le sentiment de bienveillance de la grande majorité des citoyens, on en était à ce moment-là à 7 sur 10 à peu près qui soutenaient la démarche, que ça atteigne ce côté sympathique d'accompagnement, parce que tout le monde est bien conscient que les gens qui sont engagés dans cette lutte, dans ces manifestations, ne l'ont pas fait pour passer des bons moments autour d'un feu de camp à un péage d'autoroute. Ils le font parce que ils sont effectivement dans une situation de détresse, mais plus que ça, dans un sentiment d'abandon par la puissance publique, par la République, qui elle est supposée protéger tous ses enfants.
Alors si on remonte un peu le film, il y a eu quand même en France des mouvements sociaux très puissants, très très long, je pense autour de la loi travail, je pense autour plus récemment de la SNCF et de sa réforme, avec finalement plus de monde dans la rue que n'en ont mobilisé les Gilets jaunes, et une inflexibilité du gouvernement et de l'État. Là, finalement, ces modalités-là, et peut-être aussi une forme de violence, finalement débouche sur un résultat. Est-ce qu'il n'y a pas une prime à la casse, pour parler?
Évidemment qu'il faut se poser la question, et moi je pense que les acteurs politiques, les acteurs syndicaux, les acteurs du champ associatif, enfin tous ceux qui font société, doivent s'interroger sur leur capacité aujourd'hui à être porteurs des aspirations populaires. Ça doit être un chantier, je crois que on se l'est un peu partagé justement à la sortie de la salle du Conseil des ministres à l'Élysée l'autre jour où nous étions tous là. Nous sommes préoccupés par notre capacité à créer les conditions utiles, nécessaires, indispensables à la défense des droits des citoyens. C'est quand même quelque chose qui date du temps des Lumières. La Déclaration des droits de l'homme, elle date de 1789. Il y est fait référence dans la Constitution de 1946. Et la Constitution actuelle, celle de la Ve République, fait référence à la Constitution de 1946. Donc, ça doit véritablement interroger. Est-ce que ça est en train de sonner la fin d'une époque? Est-ce que c'est en train de sonner la fin des organisations de la relation qu'on qualifiait avant de lutte de classe, ou du moins de confrontation de classe dans le contexte des institutions de la République? Peut-être, il y a un véritable sujet de travail. Sinon, le peuple va être totalement abandonné à lui-même.
Alors sur votre blog, j'ai beaucoup lu votre blog avant cette émission hein, pour me préparer. Donc il y a un blog, et tenu à jour, hein, tous les élus font pas ça. Sur votre blog, vous jouiez un petit peu avec les mots, mais en posant une question de fond, en disant ce mouvement ne veut pas être récupéré. Mais moi, élu, je dis, je pense qu'il faut récupérer ce mouvement. C'est urgent politiquement, il faut lui donner un sens politique. Et en particulier, vous exprimez sur un des éléments qui a déclenché tout ça, c'est ce rapport aux taxes et aux impôts, en sachant que ce n'est pas forcément la même chose.
Non, en effet. Alors, je ne voulais pas indiquer, si je me suis probablement mal exprimé sur mon blog, qu'il fallait récupérer quelque chose du mouvement. Il fallait surtout nous récupérer nous-mêmes, notre capacité à jouer notre rôle d'éducation populaire, notre rôle d'éveil des consciences, notre rôle d'animation de ce qui fait que les gens sont des citoyens debout, des citoyens actifs, des citoyens conscients des déterminismes économiques.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Les taxes et les impôts, il faut tout jeter...
Pas du tout.
Sur ma côté?
Pas du tout. Il faut distinguer la taxe de l'impôt. L'impôt, c'est l'outil de la solidarité nationale. Très simplement, chacun met dans la tirelire commune ce qu'il peut mettre en fonction de ses capacités. C'est d'ailleurs écrit d'ailleurs dans cette fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et puis on sort de la tirelire ce qui est nécessaire à tous.
Il est audible ce discours en tant que maire. Enfin, on peut aller voir un gilet jaune sur un rond-point et lui dire les impôts c'est important.
Oui, moi je le fais. Je le fais bien entendu. Et je le fais pas uniquement en situation de crise. L'impôt c'est différent de la taxe. En effet, on peut comprendre que la part de taxe qu'il y a dans un litre de carburant elle n'a pas le même effet. Selon que celui qui achète du carburant est un cadre supérieur, ou selon qu'il est quelqu'un qui doit prendre sa voiture pour aller chercher du travail, évidemment. La taxe, elle est identique pour tout le monde. L'impôt, il est différent en fonction des revenus en particulier, ou du type d'habitation dans lequel on est, etc. S'il n'y a pas l'impôt, s'il n'y a pas d'impôt, on ne peut pas faire vivre l'édifice républicain. Et donc, on ne peut pas faire fonctionner les services publics qui garantissent, justement, l'accès au, de façon le plus égalitaire possible, aux droits qui sont ceux à avoir un toit, à avoir un travail, à la santé, à l'éducation, aux loisirs, etc.
L'écologie, c'était aussi, puisque cette taxe portée sur le diesel, semble être complètement sortie du champ, en tout cas dans la séquence qu'on vient de traverser. Pas un mot là-dessus du président Macron.
Il a un tout petit peu évoqué dans son propos du soir. Je crois que ça illustre qu'il a bien compris que la question n'était pas simplement un refus de nos concitoyens de contribuer à la transition écologique. Il a bien compris que c'était une question qui était beaucoup plus globale et qui était une question de sentiment d'abandon total et d'accroissement permanent des inégalités entre ceux qui sont de plus en plus riches et ceux qui sont de plus en plus dans la galère.
L'urgence sociale doit primer sur l'urgence environnementale, je pense à la question du climat qui est en ce moment débattu sur le plan international.
Elles doivent absolument aller de pair, et d'ailleurs c'est à croire que quand j'évoquais des contre-vérités annoncées, je veux juste rappeler aussi que le ministère qui en charge justement l'impulsion pour aller vers cette transition énergétique et cette évolution écologique, il s'appelle à la fois ministère de la transition écologique et de la transition vers l'économie sociale et solidaire. Je sais plus exactement quel est son intitulé, mais c'est ça. Et en effet, ça doit aller de pair. Sauf qu'il faut le faire. Il ne suffit pas d'intituler un ministère.
Alors, il y a un autre dossier qui vous a préoccupé, comme beaucoup de monde en ce moment, et qui fait le lien avec le mouvement social. Les lycéens sont entrés dans la danse avec un mouvement, là aussi, assez véhément, avec des mots d'expression parfois assez musclés, un malaise. Vous en avez reçu, vous avez discuté avec certains lycéens dans votre commune.
Oui.
Quel est l'enjeu? Alors, Parcoursup, la réforme du bac
Oui, alors, bien évidemment, Parcoursup, qui manifestement, et là, on a encore vécu du mensonge, annoncé par la ministre en charge de l'enseignement supérieur dans le courant de l'été, sur le nombre de jeunes qui auraient été laissés sur le bord du chemin par le dispositif. Je ne dis pas que c'est simple, je pense qu'en tout état de cause, il faut parfaire le dispositif. A priori, je ne veux pas faire de procès d'intention, on n'a pas fait ça pour créer les conditions pour que les jeunes ne puissent pas accéder à l'enseignement supérieur. Je ne crois pas. Simplement, ça ne marche pas, donc il faut le revoir. Ça ne marche pas, en tout cas pour certains. On a quand même connu, et bon, pour avoir discuté avec des maires de communes populaires de la banlieue parisienne, alors que leur commune jouxte la ville de Paris et qu'il y a un lycée qui est tout près de leur commune, il n'y a pas eu un seul jeune sortant du baccalauréat qui a pu intégrer le lycée de Paris. On les a envoyés à l'autre bout du département, en l'occurrence en Seine-Saint-Denis. Il y a quand même un problème quelque part. Donc il y a ce sentiment, en effet, de ségrégation territoriale autour de Parcoursup. S'agissant de la réforme du bac... Que disent les jeunes? Ils disent que ça va générer une inégalité. Il y a une douzaine de mémoires d'options qui vont leur être proposées, mais pas dans tous les établissements et pas dans toutes les communes. Et donc, ça veut dire qu'en fonction du projet de formation personnelle du jeune, il va falloir qu'il se déplace à l'autre bout du département ou de la métropole ou de l'agglomération. Et là encore, on est confronté aux inégalités d'accès aux mobilités, en particulier pour les jeunes, qui sont ceux des familles les plus humbles des territoires. Et c'est ça, en fait, que les jeunes disent. Ils aspirent juste à faire vivre l'égalité.
Alors là, face aux lycéens, et comme à des manifestants gilets jaunes ou d'autres, il y a eu une réponse policière, parfois très musclée. Alors, je reviens sur les lycéens, cette cette fameuse, ces images à Mantes-la-Jolie, avec les jeunes à genoux, entourés de policiers suréquipés. Votre réaction là-dessus, parce que maintenant cette scène est rejouée dans les manifestations, c'est devenu quelque chose de très symbolique.
Oui, je crois que ça atteste véritablement du fait qu'il aurait fallu que l'État se penche beaucoup plus tôt sur les difficultés qui étaient exprimées, parce que manifestement, après tant de semaines, on peut imaginer que les policiers qui ont été à la manœuvre ce jour-là devaient être dans un tel état d'épuisement physique et psychologique que ça les a amenés à commettre ce qui a été... Enfin, pour moi, absolument humiliant pour des adolescents et des jeunes gens. Ma réaction, que voulez-vous que je vous dise ? J'ai vu des mamans chez moi qui, ayant vu les images qui ont été prises, ont versé des larmes, alors que c'était pas leur gamin. Ça s'est passé à l'autre bout de la France. Je peux vous dire que j'en avais gros sur la patate. Moi aussi, c'est pas pensable de faire comme ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai proposé aux jeunes, lorsqu'ils sont venus me solliciter pour que je puisse relayer leurs demandes plus haut, comme on dit, je leur ai aussi proposé d'entrer en contact avec les représentants syndicaux de la commune de La Seyne, pour que ceux-ci, qui sont un peu rodés à l'organisation des manifestations, si les jeunes le voulaient bien, puissent les aider à l'organisation avec un service d'ordre, avec tout ce qui est nécessaire pour que ça prévienne des situations de conflit avec la police.
Alors, tout le monde ne réagit pas comme vous. Je pense à votre ancienne camarade, Ségolène Royal, qui a dit « ça leur fera un souvenir et c'est pas mal pour leur redonner le sens de la réalité ».
Oui, c'est Ségolène Royal.
Peut-être candidate, en tout cas le Parti Socialiste espère qu'elle sera candidate aux européennes.
Bon, ben on verra l'impact de son propos sur le score de la liste à laquelle participera le Parti Socialiste au mois de juin prochain.
On reviendra sur les européennes tout à l'heure. Venons-en aux banlieues, et puisque vous avez donc cette fonction de président de l'Association des maires villes et banlieues de France, peut-être en un mot expliquer ce que c'est ce groupe et quel est l'enjeu en fait pour ces territoires dans le contexte dont on vient de parler.
Alors l'association que nous appelons de façon plus courte Villes et banlieues est une association qui a une trentaine d'années, qui regroupe des maires et désormais aussi des présidents d'intercommunalités, qui abritent sur leur territoire des quartiers qui sont reconnus par la puissance publique d'État comme prioritaires. On appelle ça des QPV, des quartiers prioritaires politiques de la ville, c'est-à-dire à peu près 6 millions d'habitants, voilà, quartiers pour lesquels l'État, depuis maintenant une bonne quarantaine d'années, met en œuvre des dispositifs particuliers pour les aider à sortir de la difficulté dans laquelle ils se trouvent, soit en termes de rénovation urbaine, soit en termes d'accompagnement social des habitants. Ce sont essentiellement des grands ensembles d'habitat social, mais ce sont également des centres anciens dégradés. Ce sont parfois des petits espaces des petits espaces d'habitat social ou de copropriété très dégradées dans des communes qui, elles, sont tout à fait ordinaires. Et le but de cette structure est de formuler des propositions à la puissance publique d'État à partir des réflexions partagées des maires de toute sensibilité qui en font partie, et aussi d'avoir une démarche un petit peu revendicative pour que nous puissions obtenir de l'État les moyens de mettre en œuvre ces politiques-là de rénovation urbaine et d'accompagnement des habitants les plus pauvres du territoire.
Alors pas facile, hein. Macron avait demandé à Borloo un plan banlieue qui a été aussitôt enterré que publié, puis la politique de la ville, c'est pas trop son truc.
Voilà une autre humiliation que nous avons subie, les 200 à peu près qui étions des élus, qui étions des responsables associatifs, qui étions y compris des acteurs économiques et pas que du champ de l'économie sociale et solidaire, et où en effet le 22 mai dernier, dans un moment absolument surréaliste, après que le président de la République nous a qualifiés de mâles blancs, ce sont ses termes, il a balayé d'un revers de main l'ensemble des propositions que nous avions construites pendant plusieurs mois à sa demande lui-même, puisqu'il nous avait invités à co-construire une nouvelle saison de ce qu'on appelle la politique de la ville. Je crois que ce qui se déroule aujourd'hui, les inquiétudes qu'on peut avoir pour l'aggravation de la situation sociale, économique, culturelle, la ségrégation territoriale pour nos quartiers urbains fragiles, a amené le président de la République à revoir un peu sa lecture. Nous l'espérons en tout cas. Il nous convie à véritablement maintenant travailler avec le gouvernement sur les enjeux de l'égalité des territoires, parce que c'est bien là la question. Ça vaut également pour le monde rural, qui connaît d'autres difficultés, parfois aussi compliquées que celles des quartiers urbains fragilisés par les réalités sociales et économiques. Il n'était vraiment que temps.
Le couvre-feu pour les mineurs à la Seine, c'est vu de Marseille, c'était pas un peu too much
C'est exactement ce qui était recherché, oui. En le qualifiant comme ça, oui, c'est pas possible. Il y a eu, de ma part, une analyse rapide d'une situation où j'ai en effet eu très peur pour nos gamins. Je ne blâme personne, sûrement pas les familles, les parents qui sont souvent, je pense en particulier aux mères seules, il y en a de plus en plus, des gens qui sont en situation très lourde sur le plan économique en particulier et qui peinent à exercer, on va dire, la totalité de leur fonction parentale. J'ai eu très peur pour les gamins parce que nous n'avions jamais connu une violence telle. Donc rien que pour faire ça, rien que pour protéger déjà, et pour dire la puissance publique doit accompagner ceux qui peuvent pas accompagner leurs propres enfants en termes de prévention de ce qui pouvait leur arriver. Mais dans le même temps, ça a aussi une valeur symbolique, c'était quand même ça le but du jeu, d'autant qu'un couvre-feu pris dans de telles conditions est totalement illégal. Et je le savais, évidemment. C'était un moyen d'interpeller la puissance publique, l'État, sur l'absolue nécessité qu'il y a à se pencher avec... tout de même, beaucoup d'urgence, et c'est d'ailleurs toujours pas fait, sur cette évolution catastrophique de la délinquance qui devient de la criminalité, qui concerne de plus en plus de jeunes gens et de jeunes filles, très jeunes, de plus en plus de familles, et qui aujourd'hui sème des morts et des blessés sur son passage.
Vous récusez l'expression très journalistique et reprise à toutes les sauces de zone de non-droit dans certains quartiers populaires ?
Non, je crois qu'il faut mettre des mots sur des réalités. Ce qui serait inexact, ça serait d'indiquer que tous les quartiers prioritaires du pays sont totalement des zones de non-droit, c'est totalement faux. Vous savez, les dealers en particulier savent trouver les endroits qui sont utiles, c'est-à-dire des endroits où on peut à la fois accueillir des acheteurs tout en étant relativement caché, où on sait qu'on peut se réfugier, empêcher les forces de l'ordre d'intervenir, etc. Donc il n'y en a pas énormément. Je vois sur l'ensemble des territoires que je connais, sur lesquels je me suis penché, il n'y en a pas énormément. Donc il ne faut pas indiquer que l'ensemble des quartiers où habitent ces presque 6 millions d'habitants sont des zones de non-droit. En revanche, il y a des zones de non-droit dans ces quartiers, mais comme il y en a aussi dans les quartiers qui ne sont pas labellisés, pourrait-on dire, quartiers prioritaires.
Et là, la réponse, c'est la hiérarchie de la réponse, c'est quoi ? C'est d'abord une urgence sécuritaire, il faut plus de police de proximité, ou c'est ce que vous disiez en début d'émission, à savoir l'éducation ?
Au stade où nous en sommes, à certains endroits, il faut les deux concomitamment. Évidemment que c'est par la prévention que l'on parvient à éviter que des jeunes, comme je le disais, de plus en plus jeunes, des gamins de sixième, ils ont 12 ans, ne soient embarqués dans ces dispositifs-là, et notamment en étant guetteurs au service des un peu plus grands. Ça passe par l'éducation de l'école, à qui il faut redonner des moyens. Moi, je trouve complètement anormal, par exemple, que un des quartiers prioritaires de ma commune, à la Seine, le centre ancien, qui est un centre ancien très dégradé, ne soit toujours pas, depuis 11 ans que je le réclame, considéré comme étant un réseau d'éducation prioritaire, c'est-à-dire doté de moyens particuliers pour que les gamins puissent tirer le meilleur parti possible de l'instruction. Mais il n'y a pas que l'école qui contribue à l'éducation, donc à la prévention. Il y a tous les temps libres. Les temps périscolaires, les temps du sport, les temps du loisir, les temps de l'accès à la culture. Il est nécessaire aussi d'avoir des éducateurs de rue. Dans une commune comme la mienne, en l'espace de 5 ans, 50% des postes d'éducateurs spécialisés travaillant au pied des tours ont disparu. L'État porte une responsabilité considérable, parce que s'ils ont disparu, c'est parce que les dispositifs qui permettaient de les financer ont disparu. Et en effet, si on enlève de la présence humaine qui concourt à la prévention, que ce soit la prévention naturelle ou la prévention qu'on qualifie de spécialisée pour ceux qui sont déjà en risque de rupture ou déjà engagés dans la rupture, ben, malheureusement, on est obligé d'en passer à l'autre phase, c'est-à-dire le traitement, c'est-à-dire la nécessité d'avoir des policiers qui font à la fois aussi de la prévention par leur présence, mais aussi de l'investigation, de la répression. Mais il faut aussi que la justice soit dotée des moyens, non seulement de faire son travail pour rendre des jugements, mais également de se préoccuper de la réinsertion de ceux qui ont été condamnés et qui ne sont pas condamnés à vie et qui doivent ensuite pouvoir retrouver leur place dans la vie sociale.
Un mot sur votre départ du Parti Socialiste, on en l'évoquait au début. Alors qu'est-ce qui vous a pris là, après tant d'années
Non, je ne me suis pas levé un matin d'il y a un mois ou deux, je ne me rappelle plus précisément, en me disant, tiens, ça y est, je rends ma carte.
Il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Non, ça fait 10 ans à peu près que je me questionne, pratiquement au moment où Jean-Luc Mélenchon a quitté lui-même le Parti Socialiste. J'ai hésité à ce moment-là à m'en aller aussi. Je ne l'ai pas fait parce que il venait d'y avoir les élections municipales, on était en 2008, et j'ai considéré que ça aurait été difficile d'expliquer à mes concitoyens qui m'ont élu avec l'étiquette qui était la mienne, celle du Parti Socialiste, que ben, finalement cette étiquette, je m'en étais servi juste pour l'élection municipale. Et j'ai toujours considéré que il y a une vie démocratique dans le Parti Socialiste, elle existe. Sauf que la réalité est que les uns après les autres, ceux qui sont, qui étaient plutôt le plus à gauche dans le parti, les uns après les autres sont partis. Et au fur et à mesure, congrès après congrès, c'est-à-dire les moments où on décide des orientations du parti, on se retrouvait de plus en plus seul, avec en voyant s'éloigner tous les 3 ans un peu plus l'éventualité que ce soit nos idées les plus, on va dire les moins social-libérales et les moins social-démocrates, et donc les plus socialistes au sens de Jaurès, de Guède ou d'autres, ces idées-là, plus ça allait, moins elles avaient de chances de remporter la majorité des suffrages des adhérents. Au bout d'un moment, on ne servait qu'à être des minoritaires dans un parti qui portait des projets sur lesquels, on l'a vu notamment au cours du quinquennat de François Hollande, sur lesquels on était de moins en moins d'accord, et que nous avions, parce que nous sommes quand même des bons petits soldats aussi dans les partis, nous avions de plus en plus de peine à défendre les choix qui ont été portés par les gouvernements de Hollande.
Voilà. Vous êtes parti avec Emmanuel Morel, qui était dans le même courant que vous, je crois, oui. Au PS. Et qu'on retrouve en 6e place sur la liste des européennes des Insoumis, on le sait depuis quelques jours. Ce cheminement vous paraît séduisant ? Est-ce que vous-même, vous pensez vous rapprocher des Insoumis ou non ?
Alors moi, vous savez,
pas dans ces conditions.
Vous l'évoquiez dans la présentation du personnage que vous accueillez. En effet, en indiquant que en 2008 comme en 2014, l'équipe qui s'est présentée au suffrage des Seynoises et des Seynois est une équipe de large rassemblement de toute la gauche. Depuis le Parti radical de gauche jusqu'au nouveau parti anticapitaliste.
Alors Mélenchon dirait la soupe aux sigles.
Oui, il pourrait le dire. Il l'a dit d'ailleurs, en effet, puisque en effet le seul parti qui ne participe pas à la majorité municipale de la Seyne, c'est la France Insoumise.
Il n'était pas encore créé, si.
Bon, il y avait le parti de gauche.
Oui.
Et il y a eu une liste aux élections municipales de 2014 qui s'est opposée à cette liste de la gauche unie. Alors, je traverse en effet une situation qui est un peu singulière. Et tout de même, à mon tour maintenant, d'indiquer que mon vœu le plus cher est que pour les échéances à venir, alors ça a l'air d'avancer un petit peu, donc du coup pour les élections européennes, du moins entre la France Insoumise, le MRC
MRC, les héritiers de Chevènement, on va dire, sans Chevènement.
Sans Chevènement, le mouvement républicain et citoyen, et puis notre groupe, qui n'est pas encore formalisé en parti, qui résulte donc de cette scission du Parti Socialiste, semble se rapprocher. C'est une bonne chose. Pour d'autres échéances, celles d'après qui sont les élections municipales, je considère que dans ces conditions-là, il ne serait que tout à fait normal qu'il y ait le plus possible dans, partout des listes uniques de la gauche, face notamment au danger de l'extrême droite qui va croissant, et en particulier dans notre région.
Alors là, vous l'avez vous-même déjà écrit sur votre blog, toujours, la gauche est peut-être la plus bête du monde en France. Ça démarre très mal quand même. Le PC a son candidat, Yann Brossa, Génération, Benoît Hamon a annoncé qu'il se présentait. Les écologistes ont leur liste. La France Insoumise, on vient de le dire. Le PS cherche sa, son candidat ou sa candidate. Enfin, déjà, la liste est longue, le NPA probablement, etc., etc. Dispersion, peut-être une liste de gilets jaunes, on en parle. Bon,
écoutez,
le Front National a de fortes chances de caracoler en tête.
Oui, hélas. Et à la lecture à la fois de cette inquiétude qui peut être une vraie probabilité, notamment dans certaines régions, à la lecture de la situation sociale que nous connaissons aujourd'hui, je pense qu'il est, il y a une véritable urgence à ce que les égaux de mouvements politiques et les égaux de personnes, qui vont souvent de pair, eh bien on les laisse un petit peu de côté. Je ne cesse, en ce sens, depuis que je suis acteur de la vie politique, locale, uniquement locale pour ce qui me concerne, je ne cesse de plaider pour la nécessité de travailler à des programmes communs, et peu importe, j'allais dire, qui les porte, quelle que soit l'étiquette particulière qui est celle de, des animateurs.
Alors je vous ai un peu égratigné dans le portrait sur vos rapports avec Hubert Falco, l'omnipotent Hubert Falco, hein, qui pèse lourd dans, dans le Var. Il n'y a pas un écart comme ça, justement, entre votre positionnement assez frondeur, comme on le disait, et finalement une gestion assez consensuelle des rapports locaux. Pourtant, il y a une problématique quand même de ces barons politiques locaux. Il y a une forme d'inertie aussi au local et des politiques territoriales qui ne sont pas toujours faites de justice sociale et environnementale.
En effet, on doit le constater. Qu'est-ce qui doit prévaloir dans ce genre de situation ? Ben, c'est l'intérêt du territoire. Un grand nombre d'enjeux, notamment en termes de redynamisation économique pour l'ensemble de la métropole de Toulon, se jouent sur le territoire de la commune de La Seyne. C'est là qu'il y a le siège, avec la commune d'Olioule voisine, notamment du pôle de compétitivité mer à vocation mondiale, qui est un facteur considérable de production de richesses, donc d'emploi, autour des activités scientifiques, technologiques, industrielles liées à la mer. La Seyne doit prendre sa part dans cette dynamique-là, mais pour qu'elle puisse prendre sa part, il faut que la puissance politique territoriale, donc métropolitaine, où la réalité des choix des citoyens des 12 communes fait que il y en a que dans une seule qu'il y a un maire de gauche, tous les autres sont de droite autour de Hubert Falco, il faut que la métropole puisse créer les conditions des aménagements en termes de mobilité, des aménagements urbains, des aménagements en termes d'offres de services publics. Et il est de mon devoir, dans l'intérêt non seulement de mes concitoyens de La Seyne, mais également de tous ceux de la métropole, d'être un coopérateur avec mes 11 autres collègues, même s'ils ne sont pas de la même sensibilité politique que la mienne.
C'est l'option inverse de celle qui se déroule dans les Bouches-du-Rhône, où les communes communistes, par exemple, minoritaires donc dans le jeu politique local, bataillent férocement contre la métropolisation. Férocement, en même temps, il y a aussi des compromis dans la gestion au quotidien.
Il le faut, c'est nécessaire. On n'est pas du tout dans la même configuration. On ne peut pas comparer la métropole de Aix-Marseille à la métropole de Toulon. Nous n'avons que 12 communes dans notre métropole. Ça nous va très bien pour l'instant. Ça représente que 430 000 habitants. Et puis, on n'a pas avancé à marche forcée par contrainte d'État. La différence fondamentale, elle est là. Et effectivement, on peut comprendre, par exemple, au-delà des difficultés que vous évoquez et des positions qui sont prises par un certain nombre de mes collègues maires de gauche et en particulier communistes dans les Bouches-du-Rhône, et je leur donne raison, en dehors de ces difficultés-là, il y a aussi les difficultés de ressenti entre, on va dire, le nord de la métropole, et notamment le pays d'Aix dans son ensemble, plutôt plus riche, qui a du mal à jouer la carte de la solidarité territoriale. On peut le comprendre, j'entends bien ça, vis-à-vis notamment du sud de la métropole, c'est-à-dire Marseille et ses quartiers populaires notamment.
Alors c'est pas simple d'être maire toujours, et rarement d'ailleurs. Dans le dernier avis, on a fait un article sur l'opération immobilière du Bois Sacré qui fait l'objet d'opposition pour des motifs environnementaux, des recours. Il y a aussi le chantier du complexe culturel, de l'atelier mécanique, qui fait d'ailleurs aussi l'objet d'opposition toujours pour des motifs environnementaux. la scène, en quelques mots, la mission touche à sa fin. Est-ce que le traumatisme en fait de la fin des chantiers navals peut passer et est-ce qu'on peut développer proprement une ville dans le cadre, dans la règle du jeu qui est celle du monde actuel?
Oui, on le peut à condition d'avoir d'une part une lecture territoriale qui s'appuie sur le potentiel littoral, le potentiel des friches industrielles, bien évidemment, pour ce qui nous concerne, et la prise en compte des nécessités du développement soutenable du territoire. C'est la raison pour laquelle j'ai modifié le plan local d'urbanisme de notre commune, de telle sorte que nous réduisions de moitié la constructibilité sur l'ensemble des zones les plus urbaines, en termes de surface, et aussi en termes de possibilité de bâtir sur chacune des parcelles. Le projet dont vous faites état, à savoir ces constructions sur le secteur dit de Bois Sacré, il devait y avoir plus du double de construction avant que nous ne modifions notre plan local d'urbanisme.
C'était votre prédécesseur de droite qui avait enclenché le...
Absolument, je pense qu'il avait, je ne blâme personne, il avait une vision qui consistait, je pense, à calculer que plus de construction, ça voulait dire plus de recettes de la fiscalité locale et donc plus de moyens pour faire fonctionner le service public. Dans les faits, ça ne marche pas de toute façon, surtout maintenant que la taxe d'habitation risque de disparaître considérablement. Donc, oui, on est toujours, vous évoquiez la difficulté à être maire. Moi, j'ai refusé le permis de construire dans un premier temps. Moi, j'ai demandé au préfet du Var d'imposer une enquête d'impact qui a eu lieu. Au bout d'un moment, le constructeur, après avoir refait plusieurs fois son projet, a produit un permis de construire qui est compatible avec le droit, enfin avec les règlements d'urbanisme et le droit de l'urbanisme. Le refuser, j'aurais pu le faire une nouvelle fois. Ça aurait fini au tribunal administratif, voire même en cour administrative d'appel ou en conseil d'État, et j'aurais forcément perdu. Donc oui, on est dans une démarche de compromis sans arrêt.
Un mot peut-être sur une ruse de l'histoire où c'est la réparation navale des yachts, des très riches, qui est en train de faire revivre votre ville. Une réaction de l'homme de gauche sur ce paradoxe.
Oui, mais vous savez, les 150 années de construction navale à la Seyne a forgé à la fois des savoir-faire de très haute technologie dans la construction et la réparation navale, mais a forgé aussi... l'habitude, le savoir-faire en matière de lutte sociale. Ça fait partie de notre patrimoine historique et je dirais même humain qui se transmet encore aujourd'hui. Ceux qui commandaient des bateaux à l'époque de la grande construction navale, c'était aussi des super riches, des grands armateurs. Aujourd'hui, ce sont des propriétaires de yachts. Tant mieux si ça apporte du travail à une population qui a vécu des drames.
L'émission touche à sa fin. Un mot rapide pour relayer la campagne de financement du mensuel Le Ravi, alors que nous faisons face à un procès bâillon, suite à des plaintes de l'eau d'Elvar, c'est chez vous, qui gère les centres de loisirs, et de son directeur, un élu LR, préférant attaquer en justice que répondre à nos questions légitimes. Nous avons besoin de soutien. Alors faites un don, déductible des impôts, magnifique, sur le site okpal.com/Le Ravi. Et n'oubliez pas qu'un journal libre ne s'achète pas, il se finance. Abonnez-vous. Marc Villemot, je vous remercie et rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle Grande Tchatche.
La Grande Tchatche, Le Ravi, Radio Grenouille.